Vous êtes sur RTL.
Bienvenue Ophélie sur RTL.
12h30, 13h30, le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal inattendu. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Avant tout, une pensée chaleureuse pour Vincent Parisot qui ne peut pas être parmi nous. On lui souhaite de revenir le plus vite possible. Aujourd'hui, un journal inattendu un peu spécial. Confinement oblige. Je n'ai pas d'invité à côté de moi dans ce studio, mais le confinement et le déconfinement seront les thèmes abordés avec 4 invités qui nous rejoindront dans l'heure qui suit par téléphone. La crise que nous traversons en ce moment provoquera une rupture comparable aux grandes guerres. Ce sont les mots du sociologue Jean Viard. Il nous expliquera comment nos relations humaines vont être transformées par l'événement que nous vivons. Avec le ralentissement de l'activité, l'environnement respire. Même en ville, on peut entendre les oiseaux. Protéger la nature sera l'un des grands défis de l'après-coronavirus. L'aventurier Nicolas Vanier sera également notre invité dans Journal Inattendu. Des coquillettes au jambon, quoi de plus basique. Mais quand c'est la recette de Cyril Lignac, c'est à tomber. Alors le chef qui cartonne en ce moment avec son émission sur M6 nous livrera quelques secrets pour rendre notre confinement plus gourmand et plus croquant. Et puis il est tellement important pendant cette période difficile, l'humour. Caroline Vigneault sera notre invitée tout à l'heure. Sur son compte Instagram, elle poste des vidéos sur sa vie de maman confinée avec 2 petits garçons bourrés d'énergie. C'est très drôle, c'est criant de vérité et ça fait du bien. Mais tout de suite, ce journal inattendu commence par l'actualité avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Ophélie, bonjour à tous.
Et avant de parler d'épidémie de coronavirus, Olivier, une attaque au couteau ce midi dans la Drôme.
Oui, 2 morts à Romans-sur-Isère, attaque au couteau dans la rue. On sera avec notre correspondante sur place dans un instant. L'épidémie de coronavirus, les forces de l'ordre sont sur le pont pour faire respecter le confinement. 420 000 contrôles ont eu lieu hier sur les routes, dans les gares. Est-ce que le mot d'ordre a été respecté? On sera à Carnac, en Bretagne, dans un instant. La France qui a dépassé les 6 000 morts, les services de réanimation sont saturés. Pour autant, en Ile-de-France, on remarque un fléchissement du nombre de cas graves. Arrive-t-on au pic? On posera la question à notre spécialiste santé, Odile Pouget, qui nous aidera également à y voir un peu plus clair sur l'efficacité du port du masque. Les discours ont en effet beaucoup changé. Dans ce journal également, on sera à Mougins, à côté de Cannes, dans un EHPAD de la ville. 29 résidents âgés sont morts. Il y a urgence, selon le maire de la ville, pour éviter l'hécatombe.
Et puis, le temps, Valérie Quintin, du soleil presque partout cet après-midi.
Oui, pour l'instant, on a vraiment du soleil partout, mais c'est vrai que ça va charger un petit peu sur les Hauts-de-France dans le courant de l'après-midi. C'est pas grand-chose, il n'y aura pas vraiment de dégradation, simplement un ciel partagé entre gris et bleu sur le nord, le Pas-de-Calais, le département de la Somme aussi. On aura aussi quelques nuages qui vont circuler entre les Alpes du Sud et les Alpes-Maritimes. C'est très peu de choses pour tous les autres. Du ciel tout bleu et des températures très douces avec 16 degrés attendus à Caen, 17 à Paris, 18 à Mâcon, 19 pour Lyon et Poitiers. Il fera 20 degrés à Toulouse et 22 degrés à Montauban.
Merci Valérie Quintin.
Le journal inattendu sur RTL.
Et direction d'abord, donc Romans-sur-Isère, une attaque au couteau a eu lieu ce matin. Nerissa Emani, vous êtes la correspondante de RTL dans la Drôme. L'attaque a fait 2 morts et 7 blessés.
Oui, les faits se sont produits en fin de matinée en plein centre-ville de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Un homme s'en est pris à plusieurs personnes. Il a porté plusieurs coups de couteau à des passants dans la rue et à proximité d'une boulangerie. Bilan, vous l'avez dit, 2 morts, 7 blessés et 2 personnes en urgence absolue. Leur pronostic vital est engagé. L'assaillant a lui été interpellé par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un Soudanais, un demandeur d'asile. On ignore pour l'heure les raisons de son geste. D'importants moyens de police et de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur place.
Merci beaucoup Nerissa Emani, correspondante d'RTL dans la Drôme.
Et maintenant le coronavirus, Olivier, avec les forces de l'ordre qui sont sur le terrain pour faire respecter le confinement.
Oui, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ils multiplient depuis hier les contrôles dans les gares, sur les routes, pour faire respecter ce mot d'ordre de fermeté. Pas de question de partir en vacances. Allons voir sur le terrain si la règle est respectée. On est à Carnac avec notre correspondant dans l'Ouest, Nicolas Bobby. Nicolas, la question est simple. Vous avez sillonné la station balnéaire toute la matinée. Est-ce qu'il y a eu une arrivée massive de Parisiens, de Franciliens, entre hier et aujourd'hui ?
Alors, dans un véritable décor de carte postale face à moi, soleil, plage, mer, quelques franciliens sont arrivés hier, mais pas de grand rush, ni surtout de chasse aux sorcières. Beaucoup ont quitté la capitale avant le confinement.
Je suis arrivé lundi soir, il y a 3 semaines, et on est très bien accueillis. Les gens sont très gentils avec nous, et on est très bien ici. Bah, parce qu'à Paris, avec 3 enfants en bas âge, dans un petit appartement, c'est difficile, et là, on a un petit jardin.
On vit à Paris, on a 2 enfants de 2 ans et 4 ans, et on vit dans 50 mètres carrés, sans jardin, sans balcon. Voilà. Donc on est venu ici, parce qu'on a la possibilité d'avoir un appartement ici, mais avec un petit jardin et un petit balcon. Et on respecte le confinement. Moi, je sors tous les 2 jours faire un jogging et on va une fois par semaine faire nos courses.
Ce papa respecte à la lettre les mesures barrières.
4 enfants et 100 mètres carrés, c'est un peu hard. Et puis surtout, en fait, au bout de 2 heures, mon fils m'a dit « Mais on peut pas aller faire du foot dans le hall d'immeuble. » Ok, on va y aller. Donc moi, j'ai beaucoup de cours et on reviendra dans très longtemps.
La boutique de vêtements et de cadeaux d'Emeline est fermée. Ces Parisiens sont ses clients.
Ils seront là pour la réouverture, donc c'est pas plus mal. On sait pas comment ça va se passer parce que nous, on a plus de trésorerie, en fait. On bosse fortement de avril à août.
La plage de Carnac est interdite et les contrôles se multiplient.
Bonjour madame, la police municipale. Est-ce que vous avez votre attestation, s'il vous plaît?
Oui, la voici.
Vous êtes en train de faire votre sport?
Oui.
On vous a arrêté dans votre élan, alors?
Oui.
D'accord. Donc vous avez encore un petit peu de temps, vous êtes dans les temps.
Ce midi, les joggeurs sont nombreux et les toutous promènent leur maître.
Merci beaucoup Nicolas Bobby, correspondant RTL en Bretagne. Le confinement qui reste donc la règle et surtout le moyen le plus efficace pour limiter l'épidémie, alors que le bilan s'aggrave toujours en France. 588 nouveaux décès hier en 24 heures. On a désormais dépassé les 6500 morts en France et le nombre de personnes soignées en réanimation augmente toujours. On est à 6600 patients traités pour des formes graves de Covid-19.
Et c'est dans les maisons de retraite, hein, Olivier, que la situation inquiète toujours autant.
Oui, alors que les chiffres ne sont encore que partiels. On estime que 1400 personnes âgées sont mortes dans les EHPAD en France. Les seniors qui, on le sait, sont les plus vulnérables face à la maladie. Dans l'EHPAD de Mougins, par exemple, près de Cannes, la situation est dramatique. 29 résidents sont morts du Covid-19. Un plan d'urgence est mis en place, Mickaël Lefebvre.
Effectivement, selon un porte-parole de l'établissement, le bilan s'est alourdi hier de 5 décès supplémentaires. Ce sont donc 29 des 109 résidents de cette EHPAD qui ont succombé des suites du Covid-19. Un bilan effroyable, dramatique, qui laisse les familles sous le choc. Hier matin, une réunion de crise s'est tenue entre la direction du groupe Corian, l'agence régionale de santé et la ville de Mougins. Des mesures fortes ont enfin été décidées. Les tests de dépistage ont ainsi débuté dans la journée de vendredi pour tout le personnel de l'établissement. Lundi, ce sera au tour des résidents. 2 zones étanches sont également mises en place à l'intérieur du bâtiment afin de séparer les personnes asymptomatiques de celles présentant des symptômes. 5 membres du personnel ont été pour le moment testés positifs au coronavirus, dont le directeur et le médecin coordinateur de la résidence. Hier, la sous-préfète de Grasse regrettait dans les colonnes de Nice Matin une réaction pas assez rapide des gestionnaires de l'EHPAD face à la gravité de la situation.
Merci Mickaël Lefebvre, correspondant RTL à Nice. Comme les forces de l'ordre, l'armée est en première ligne face au coronavirus. On apprend ce matin que 600 militaires français sont atteints par la maladie, selon la ministre des Armées Florence Parly, qui affirme que malgré tout, l'armée pourra continuer à remplir toutes ses missions.
On fait une pause et dans un instant, les autorités ont-elles changé d'avis sur l'efficacité du masque? On voit ça avec notre spécialiste santé, Odile Pouget.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Avec Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité avec vous, Olivier Bois, et la question qui se pose, doit-on généraliser le port du masque? Doit-on essayer d'en fabriquer?
Oui, la question se pose effectivement, et surtout le discours a évolué depuis le début de l'épidémie. Au départ, les autorités françaises nous ont expliqué qu'il n'était pas nécessaire dans la rue pour le citoyen lambda. Aujourd'hui, on entend des discours contraires aux États-Unis. Des médecins également en France expliquent qu'un masque chirurgical ou un masque en tissu peut malgré tout être, disons, mieux que rien. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Qu'en est-il? Quel est le discours que disent les autorités là-dessus maintenant?
Eh bien, depuis hier, et c'est vrai que c'est un changement notable, les autorités sanitaires, par la voix du directeur général de la Santé, encouragent le grand public, s'il le souhaite, à porter ces masques alternatifs. Port d'ailleurs recommandé par l'Académie de médecine. Alors attention, il n'est évidemment pas question des masques FFP2 ou bec de canard, vous savez, équipés d'un filtre permettant de ne pas inhaler les gouttelettes chargées de particules particules virales est réservé aux soignants. Jérôme Salomon ne parlait pas non plus de masques chirurgicaux, anti-projection, que doivent porter des personnes présentant des symptômes ou déjà contaminées. Il parlait en fait de masques en textile, en papier, tissu, fabriqués à la maison. Des tutoriels d'ailleurs fleurissent sur Internet. Une couche de molleton, deux couches de coton, c'est la recette par exemple de la faculté de médecine de Grenoble. Des masques altruistes, destinés non pas à se protéger soi-même, mais à éviter de contaminer les autres. Tout ce que l'on met entre l'arbre respiratoire et la personne devant soi, disent beaucoup de médecins, c'est mieux que rien. Solution qui, selon les autorités, ne doit pas faire oublier le respect des gestes barrières.
Odile, si on parle de cette hypothèse de généraliser les masques, quels qu'ils soient, est-ce que ça veut dire qu'on pense aujourd'hui que le virus est plus volatile qu'on l'imaginait auparavant ?
Alors, c'est l'hypothèse selon laquelle ce coronavirus pourrait se transmettre via l'air expiré lorsque les gens se parlent et pas seulement lorsqu'ils toussent ou qu'ils éternuent. Ce mode de transmission, objet de très nombreuses spéculations, n'est pas encore scientifiquement prouvé. Mais cela ne change pas grand-chose parce que depuis le début de l'épidémie, on sait que passer du temps en contact rapproché avec un malade non protégé dans un lieu fermé, eh bien c'est risqué.
D'où le respect de la distance de sécurité.
Absolument.
Dernière question avec vous, Odile. Je donnais le chiffre tout à l'heure. 6600 personnes en réanimation, 2700 rien qu'en Ile-de-France. On était au bord de la saturation en Ile-de-France et dans le Grand Est. Mais on voit depuis quelques jours le rythme de cette hausse qui ralentit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça signifie qu'on n'a pas atteint le pic, loin de là, qu'il faut rester très prudent, mais c'est vrai, il y a un ralentissement des cas graves. La semaine dernière, par exemple, on enregistrait des hausses de 20% d'une journée à l'autre. Hier, on en était à 4%. Cela veut dire très certainement que les mesures de confinement commencent à faire effet et qu'il ne faut surtout pas relâcher l'effort.
Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé à RTL. Un mot de la situation chez nos voisins. Cette hausse qui ralentit en France et les perspectives également en Italie. Même si le pays avec 14 700 morts est le plus endeuillé d'Europe, le nombre de cas n'a augmenté là encore que de 4% hier. Le pays espère être en train d'atteindre le pic. Le bilan, en revanche, s'aggrave. Aux États-Unis, 1489 morts en 24 heures. Pour le coup, les autorités là-bas sont claires et préconisent le port du masque. Le pays est en train de devenir le nouveau centre mondial de la pandémie. Et Donald Trump, on l'a entendu cette semaine, évoquait lui-même l'hypothèse que le pays, l'épidémie, puisse tuer entre 100 000 et 240 000 Américains.
Merci Olivier Bois. On vous retrouve donc à 13h pour le rappel des titres. 12h43, on retrouve notre premier invité de cette édition spéciale confinement du journal Inattendu. C'est la première fois dans l'histoire que nous vivons un confinement quasi planétaire. Avec cette crise, notre système, toutes nos habitudes s'écroulent. Jean Viard est avec nous, sociologue et directeur associé au CEVIPOF CNRS. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Vous êtes chez vous en ce moment, je suppose. Vous êtes en France,
ah oui.
Vous êtes dans quel coin ?
Non, moi, je suis un ancien babacool reconverti, donc je suis là où je m'étais installé après 68, ce qui est aujourd'hui génial, en pleine campagne, dans une vieille ferme restaurée.
Alors, on l'a entendu à l'instant hein, dans le journal, le confinement commence à avoir un effet. Ça fait du bien d'entendre ça.
Oui, mais ça montre que, si vous voulez, cette politique est efficace. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais c'est la seule qu'on avait sous la main. Et donc, c'est vrai que le confinement, il faut se dire, on se bat non seulement pour être solidaire, évidemment, de ceux qui sont en première ligne, puisque nous, on risque un peu moins quand même que les médecins ou les caissières, mais on c'est efficace. Donc, ça veut dire, il faut continuer. C'est insupportable. Là, c'est les vacances de Pâques. Il y en a qui voulaient aller à des fêtes religieuses, d'autres qui voulaient aller se promener. On va pas le faire, mais voilà. Mais ça paye, tant mieux. Continuons comme ça.
Cette crise nous montre qu'on est capable de s'unir, quelle que soit notre situation, autour d'un même combat. Il y a quand même la moitié de l'humanité qui est en ce moment confinée pour la survie de ses membres. C'est historique. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'être humain en lui-même ?
Et si vous voulez, moi, ça me fascine. L'idée, effectivement, qu'on soit capable de faire la guerre, mais pas les uns contre les autres, comme on a toujours fait, mais tous ensemble contre un virus. Parce que derrière, j'entends, on pourra faire la guerre tous ensemble contre le réchauffement climatique. Donc ça, si vous voulez, je trouve que c'est, dans l'histoire de l'humanité, il y a quelque chose de grandiose, quoi. Et je crois qu'il faut le saluer, quoi, comme un moment historique. Vous savez, on parlera de la génération 2020. On est tous traumatisés, hein, dans nos vies privées, dans nos, bon, notre vie professionnelle. Il y a des uns plus que les autres, mais enfin, tous quand même. Mais ça, tout d'abord, on a dit tout à l'heure, cela sert à quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est peut-être, on peut à partir de là construire un rapport un peu différent politique. Tout ne va pas changer. On est dans des sociétés de consommation hyper techniques et tout.
On va en parler justement, notre société de consommation.
Voilà, mais si vous voulez, tout ne va pas changer. Mais en même temps, je crois qu'on se rend compte qu'on peut agir en commun, qu'on peut avancer, même si derrière, on voit bien les Chinois qui essayent d'en profiter, les partis nationalistes américains ou brésiliens qui sont des catastrophes mentales. Mais n'empêche que quand même, l'essentiel, il est là.
Ça fait 3 semaines que la France est confinée, presque. Et quelle que soit notre situation, que nous soyons seuls, en couple ou en famille, ça semble franchement facile pour personne. Pourquoi ?
Ben, si vous voulez, parce qu'au fond, une journée ordinaire, c'est des tas de gens qu'on croise. Il y en a, on va travailler avec eux, il y en a, on va leur parler au petit déjeuner, voir le soir dans le lit, puis il y en a plein, on les croise tous les jours, et au fond, on dit qu'on a 40 petits contacts par jour. Et souvent, c'est ces petits contacts qui, mine de rien, font le plaisir d'une journée, un sourire à une jeune femme, je sais pas, chacun ses fantasmes, mais c'est ces petits riens, tenir une porte. Et ça, on en est privé, quoi. Et quelque part, on est humain que parce qu'il y a les autres. On croit toujours qu'on est des individus indépendants, éduqués, avec des moyens plus ou moins forts, etc. Oui, mais sans les autres, on n'est plus rien.
C'est ça, en fait. Ce confinement, c'est une excellente façon de réaliser à quel point on existe aussi beaucoup à travers les autres, en fait.
Ben, c'est ce que, si vous voulez, les grandes religions avaient appris, puis on les a perdus, évidemment. Les gens qui allaient chez les moines, enfin même le Shabbat, quelque part le Ramadan, ces périodes de retirement du temps ordinaire, ça existait dans les sociétés. Nous, c'est vrai que dans nos sociétés modernes, on a perdu ça. De ce point de vue-là, ça nous fait profondément réfléchir, et je pense que ça va nous marquer. Il n'est pas impossible qu'on va garder quelques habitudes, et ça, c'est pas négatif, parce qu'on se rappelle que le bonheur, c'est les autres. Et je crois qu'on a un peu trop tendance à penser que le bonheur, c'est soi-même. Bien sûr qu'on est une société d'individus éduqués, enfin, c'est génial, notre société, on a construit un modèle de l'individu libre qui est extraordinaire, mais il faut redire et montrer que c'est les autres. Et souvent, les petits autres, si on peut dire, oui, effectivement, la caissière, oui, la boulangère, c'est pas uniquement ce qu'on passe au poste. Et ça, je pense aussi que c'est inséparable. On vit de tous les petits métiers, on vit de tous les métiers, tout le monde est honorable, et ça, je pense qu'on l'avait un peu oublié.
On est partagé en janvier entre élan de solidarité autant que repli sur soi. On a deux attitudes opposées en ce moment. À la fois, on applaudit les soignants tous les soirs à 20h pour les soutenir, mais aussi, on veut surtout voir personne. Qu'est-ce qui prendra le dessus, d'après vous, après cette crise ? La solidarité ou plutôt le repli sur son petit cercle personnel ?
J'ai tendance à penser que c'est plutôt la solidarité, mais c'est peut-être mon caractère positif. Mais je crois qu'il faut se dire, si vous voulez, qu'en ce moment, on est en train de construire des souvenirs qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des gens qui ont été courageux. Il y a des gens qui seront allés s'engager pour amener à manger au SDF ou aux vieilles dames, ou je sais pas, des petits gestes simples qu'ils ne faisaient pas avant. Et puis il y a des gens qui auront été lâches. Il y a des gens qui auront mis des mots sur les voitures des infirmières en disant déménagez, tirez-vous. Bon, on a connu ça, comme on dit, on a connu ça en 40 avec les dénonciations à la Gestapo. Mais si vous voulez, on est construit notre avenir en termes de mémoriel. Et je pense qu'il faut aussi dire aux gens, attention, vous construisez vos souvenirs. Construisez-vous de beaux souvenirs. Ça vous aidera à redémarrer et à ne pas avoir peur que ça recommence.
Construisez-vous de beaux souvenirs, c'est à retenir ça. Le Premier ministre a prononcé le mot un mercredi et a commencé à évoquer ce qu'on attend tous, malgré tout, le déconfinement. On l'écoute.
Nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois, partout et pour tout le monde. Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement, en étudiant l'opportunité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Nous sommes en train de travailler et d'expertiser des scénarios en fonction des hypothèses de façon à pouvoir exposer et donner une perspective à nos concitoyens.
Sachant qu'on est confiné au moins jusqu'au 15 avril, est-ce que c'est pas un peu tôt pour nous parler de déconfinement ?
Vous savez, je crois que c'est jamais inutile de parler de l'avenir. Vous avez des religions, on parlait toujours du paradis ou de l'enfer. Les révolutionnaires parlaient de la révolution et de l'après-la-révolution. C'est-à-dire, on a tous en ce moment, on est dans la période la plus dure. Si je veux bien écouter les psychologues à droite et à gauche, en gros, première semaine, tu ranges, deuxième semaine, tu demandes ce que tu fais, puis troisième, tu commences à en avoir marre. Et puis bon, et donc à un moment, le fait de dire, bon, écoutez, en gros, le 15 avril, ne rêvons pas, peut-être à certains endroits, certaines personnes, puis petit à petit, ça commence à nous faire réfléchir sur l'après. Ça commence à nous dire, il va y avoir une sortie, mais elle va être relativement lente, parce qu'effectivement, on voit bien du reste ce qui se passe à Chine, c'est-à-dire que les microbes disparaissent, mais ils peuvent être amenés par quelqu'un d'autre, etc. Et donc, si vous voulez, non, moi je pense que c'est pas mal de parler du futur, alors on peut toujours en discuter, il faut commencer à rêver sur le fait qu'on va en sortir, il faut commencer à rêver sur le fait que cet été, il y aura encore du soleil, si vous voulez, il faut nous tourner vers l'avenir, parce que sinon c'est un peu dur, surtout pensons à ceux qui sont tout seuls, pensons à ceux qui ont des gens handicapés à la maison, il y a vraiment des gens qui ont des situations terribles, et donc je pense qu'ils ont encore plus besoin d'une toute petite fenêtre dans le coin de l'écran, si on peut dire.
Mais alors justement, comment on va se comporter après au moment de ce déconfinement? Est-ce que on va soupçonner le moindre copain qui tousse à côté de nous quand on est à table lors d'un dîner entre amis?
Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'amour et beaucoup de peur. Hein. On va pas se jeter dans les bras les uns des autres comme en 45. Je veux dire, c'est pas la libération. Il faut pas rêver, parce qu'en fait, personne sait très bien comment cette maladie qu'il a pas, est-ce qu'elle va redémarrer. Soyons honnêtes, il va y avoir une période où on va être inquiet qu'elle redémarre. On va peut-être garder aussi des gestes barrières. Peut-être qu'on serrera moins la main. La mode des bises, par exemple, était devenue considérable. Moi, ça me frappe. J'embrasse maintenant mes copains d'école alors que je les ai jamais embrassés jusqu'à 50 ans. Donc, je prends cet exemple parce que entre les hommes, c'est devenu très courant de s'embrasser. Bon, ben, donc ça, c'est les choses qui peuvent changer. Hein. Il peut y avoir des codes. Il se peut qu'on soit amené à poster des masques en situation de foule, dans un bus, etc. Parce que si vous voulez, on va tous se dire, on va apprendre des choses. On va pas devenir coréen. Mais l'idée d'avoir des masques à la maison quand on a une grippe, un rhume, d'en avoir un, etc., peut-être qu'on va arriver à faire rentrer ça dans les mœurs. Vous savez, ça peut aussi faire diminuer d'autres types de maladies moins graves, hein, comme la grippe, comme le rhume et tout ça. Donc peut-être qu'on va évoluer un peu sur nos règles sanitaires.
Ce qui se passe en ce moment, Jean Viard, c'est aussi un plaidoyer contre la mondialisation. La première chose qu'on a faite, c'est s'enfermer chez soi et fermer les frontières. Ça va complètement à contre-courant de la société dans laquelle on a été habitué à vivre. Est-ce que la gouvernance de notre société va devoir changer après la crise?
Ben, si vous voulez, il y avait des tendances minoritaires qui revendiquaient déjà ces frontières, soit à l'ultra-gauche, soit à l'ultra-droite, hein, renationaliser l'économie, refaire des industries chez nous, etc. Moi, je crois que le monde est devenu définitivement global, que le monde est tout petit, qu'on ne peut écouter n'importe quelle radio, n'importe quelle télé, et puis de toute façon, le réchauffement climatique, il est partagé par tout le monde. Donc, on ne va pas revenir à des États-nations fermés. Je crois que c'est un mythe. Il y a des régimes, des forces nationalistes qui vont peut-être y pousser. Elles peuvent gagner. Elles vont être très, très fortes. Elles ont la réponse clé en main à tous les sujets. Et là, on ne fait que parler de frontières, de confinement, etc. Idéologiquement, c'est assez proche de la frontière. Donc, la question, si vous voulez, c'est de se rendre compte qu'on a cru depuis 40 ans que le marché était le meilleur régulateur des prix et des besoins et des techniques. Et donc, effectivement, on fait les matchs en Chine, les matchs en Chine, on fait venir les vêtements d'Éthiopie, etc. On se rend compte que pour les biens physiques, c'est sans doute possible, mais pour ce qui relève de la souveraineté des États, c'est-à-dire se nourrir, s'éduquer, se soigner et se défendre, c'est pas rationnel. On n'a jamais acheté nos obus dans la guerre de 39-40 aux Allemands. Donc si vous voulez, à un moment, il faut dire, la première responsabilité de politique, c'est de protéger le peuple. Ce que disait d'ailleurs le peuple à travers ses grognements, si je peux me permettre, je mets des guillemets, je ne veux pas être désagréable, mais que ça soit les gilets jaunes, que ça soit parfois les extrêmes droites, etc., on ne se sent pas protégé. Là, il est clair qu'il va falloir se protéger sur les choses fondamentales, éduquer, soigner, nourrir. Et si vous voulez, c'est quand même les trois fondamentaux. Moi, je rêve, par exemple, voyez, qu'il y ait, par exemple, comme il y a l'indice de Shanghai pour classer nos étudiants, qu'on ait l'indice de Berlin pour les classer aussi. C'est-à-dire, en fonction de nos systèmes de valeurs, de nos appréhensions, ne nous laissons pas, si vous voulez, déstructurer sur ces fondamentaux de souveraineté. On l'a fait, ça a été une erreur, ça coûte beaucoup de vie, et ça, on l'a fait depuis longtemps, depuis 40 ans, au nom, si vous voulez, de la régulation par le marché. Oui, c'est moins cher de fabriquer, effectivement, des masques au fin fond de la Chine, c'est vrai. Sauf qu'on n'en a pas en cas de pandémie, donc quelque part, c'est pas très utile.
Merci Jean Viard. Prenez bien soin de vous hein, dans votre campagne. Et
merci
puis à
beaucoup.
Très bientôt. Dans un instant, notre prochain invité du journal Inattendu en a fait le combat de sa vie, préserver la nature. L'aventurier Nicolas Vanier sera avec nous pour nous expliquer comment continuer hein, à protéger l'environnement une fois que nous ressortirons tous de chez nous. À tout de suite.
Ophélie Meunier,
le journal Inattendu sur RTL.
Tiens.
Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier.
On entend la bande originale du film Donne-moi des ailes. Aventurier, écrivain, réalisateur Nicolas Vanier est avec nous. Bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Vous avez plus de 20 expéditions dans le Grand Nord à votre actif. Vous revenez à chaque fois avec des images incroyables, des témoignages puissants de vos voyages. Ça donne entre autres l'Odyssée sauvage, Loup ou encore plus récemment Donne-moi des ailes. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Je ne peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez ton père à Saint-Romain.
Ah non, c'est mort, je reste pas ici. Hein.
Ouais, maman, je m'ennuie.
Viens me chercher, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage?
Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père.
Tu vois cette espèce d'oie? Elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elles le suivent, bah, il faut que je leur montre la route.
Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc. Hein.
Mais bien sûr. Hein. Traverser la mer du Nord.
Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague.
Non, mais ça va aller.
Non, mais quoi, ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian?
Ce film hein, sur un adolescent qui se retrouve avec son père au milieu de la nature, ça l'enchante pas trop. Mais finalement, tous les deux vont se retrouver et tenter de sauver une espèce d'oie sauvage en voie de disparition. Alors, est-ce que là où vous êtes, Nicolas Vanier, en ce moment, vous avez au moins la chance d'entendre les oiseaux tous les jours?
Bah écoutez, plus que jamais, puisque il n'y a plus d'avions qui passent dans le ciel, très peu de voitures, donc on les entend plus particulièrement, notamment parce que c'est le printemps. Maintenant, nous savons aussi que chaque printemps qui passe, c'est un petit peu moins d'oiseaux. Il faut rappeler qu'un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen, que probablement un second tiers va très rapidement disparaître parce qu'on ne fait absolument rien pour que ça change. Donc effectivement, chaque printemps, j'écoute cette musique extraordinaire et délicieuse que j'entends encore et que j'entendais encore ce matin. Mais pour combien de temps encore ?
L'effondrement de la biodiversité sur la planète, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Les espèces disparaissent à toute vitesse. Près d'un million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Alors ce chiffre plutôt positif, ou cette info plutôt positive, dans le parc national des Calanques à Marseille, ces derniers jours, on a pu voir des espèces d'oiseaux, de poissons qu'on ne voyait plus ou en moins grand nombre. Ça lui fait du bien à toute cette belle nature, elle aussi, de prendre l'air de nous, finalement.
Oui, bah, des exemples de ce type... Il y en a de nombreux. Moi, j'ai été extrêmement touché par le témoignage d'une jeune Chinoise de 12 ans qui, pour la première fois de sa vie, a vu des étoiles. S'est rendu compte qu'il y avait dans le ciel des étoiles. On sait combien, effectivement, cette dramatique histoire a réduit la concentration d'oxyde d'azote en Chine, ce qui a eu pour effet que le ciel s'est ouvert et que des adolescents qui n'avaient jamais vu ça de leur vie ont vu des étoiles. Je trouve qu'il y a là un message absolument incroyable, finalement, peut-être que la nature nous envoie. Et est-ce qu'il ne faut pas non plus, dans cette situation dramatique, rappeler que la réduction de la pollution de l'air, notamment en Chine, a sauvé plus de vies que le coronavirus en a tué? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, et Dieu sait s'il y a des enseignements à tirer de cette dramatique histoire, est-ce qu'il n'y a pas lieu là de tirer aussi des leçons de cela?
Alors justement, la pollution, on va en parler, on fait une courte pause, très très courte, restez avec nous. Et vous restez avec nous aussi, Nicolas Vanier, dans un instant vous nous direz ce que l'on doit faire absolument pour continuer à préserver notre nature une fois qu'on sera déconfiné. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Entre RTL.
Il est 13h.
Journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité.
Ophélie Meunier.
Et le rappel des titres avec vous, Olivier Bois. Une attaque au couteau a fait deux morts ce matin à Romans-sur-Isère.
Oui, dans la Drôme, un homme a attaqué les passants au couteau. Deux morts, effectivement, sept blessés, dont certains dans un état grave. Il a été interpellé. Que s'est-il passé, Thomas Proutot?
Eh bien, l'attaque a eu lieu vers 11h au centre-ville de Romans-sur-Isère, là où des commerces de bouche sont encore ouverts malgré le confinement. Un homme, vous le disiez, a sorti un couteau et poignardé plusieurs passants avec une extrême violence. 9 personnes auraient été touchées selon un premier bilan. 2 sont décédées selon plusieurs sources. Il y a au moins un blessé grave. Alors, des policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont réussi à interpeller l'assaillant, à mettre fin à sa course meurtrière. Pour l'heure, on sait peu de choses sur cet homme. Il serait porteur de papiers d'identité étrangers. mais les enquêteurs tentent de vérifier si ce sont bien les siens et l'interrogent sur ses motivations. Le parquet de Valence a été saisi de l'enquête. Le parquet national antiterroriste, lui, évalue les données qui sont remontées par les enquêteurs pour voir s'il se saisit à son tour.
Merci beaucoup Thomas Proutot du service police-justice d'RTL. L'actualité sur le coronavirus et les forces de l'ordre sur le terrain. 160 000 policiers et gendarmes pour faire respecter le confinement, faire en sorte que personne ne parte en congé alors que les vacances de printemps commencent pour l'Île-de-France et pour l'Occitanie. Respecter le confinement, d'autant plus important qu'il montre son efficacité. Il y a eu moins d'admissions en réanimation ces derniers jours, que ce soit dans le Grand Est ou en Île-de-France. Pour autant, nous ne sommes pas au pic. 588 personnes sont mortes hier, le niveau est record et les services hospitaliers sont toujours saturés. Pour lutter contre la propagation du virus, faut-il généraliser le port des masques de protection? L'Académie de médecine le préconise désormais, alors que depuis le départ, les autorités martelaient que ça n'était pas nécessaire. Un mot pour finir de la situation à l'étranger. En Espagne, 809 personnes ont perdu la vie en 24 heures. Le chiffre est en baisse depuis deux jours. En Italie, pays européen le plus endeuillé par le Covid-19, les autorités espèrent arriver au pic. En tout cas, le nombre de cas n'a augmenté hier que de 4%. L'inflexion est assez notable depuis quelques jours maintenant.
Et un temps ensoleillé partout en France, après une matinée localement bien brumeuse sur la moitié nord, en particulier vers les Hauts-de-France, la Bretagne, le Val-de-Loire et la Champagne. Un ciel bleu sur tout le territoire en seconde partie de journée. Les températures de l'après-midi, de 14 à 23 degrés de Dunkerque à Biarritz, 15 à Cherbourg, 16 à Nancy et Perpignan, 17 à La Rochelle, Ajaccio et Strasbourg, 18 à Marseille, Mâcon, Paris et Toulon, 19 à Valence, Rennes et Poitiers, Toulouse, Grenoble, il fera 20 degrés, 21 à Bordeaux et Montauban et 22 pour Mont-de-Marsan. Merci Olivier, on vous retrouve à 18h.
À tout à l'heure.
RTL, le journal inattendu.
J'essaie de faire partager cet amour et ce respect que j'ai pour la grande nature.
Une véritable anomalie climatique que personne n'explique. Sinon que c'est le signe de plus que le climat est totalement déréglé. Et apparemment, ça se confirme un peu partout dans le globe.
Nous sommes toujours avec Nicolas Vanier dans ce journal inattendu spécial confinement. On vient d'entendre un extrait de l'Odyssée sauvage, hein, Nicolas Vanier, une de vos plus grandes œuvres. La préservation de l'environnement, vous en avez fait le combat de votre vie, vous avez vu de vos yeux les effets du dérèglement climatique. Quand vous voyez à quel point la nature respire là, depuis que nous avons tous levé le pied, quel message voulez-vous absolument faire passer aux gens ?
Ben, ce sur quoi je m'inquiète, c'est de savoir si nous allons savoir tirer les enseignements de cet avertissement de dramatique. Quelque part, la nature nous envoie. Il y en a déjà eu d'autres qui ont...
Faut tirer les enseignements.
Ben, il le faut, mais savez-vous, des avertissements de ce type, aussi dramatiques soient-ils, nous en avons déjà connu. Je pourrais citer pour exemple et pour mémoire cette grande émotion qu'a suscité la forêt amazonienne qui brûlait. Pourquoi la forêt amazonienne brûle ? C'est nous, consommateurs, qui, de par l'utilisation des produits issus de la culture du soja, de l'huile de palme, provoquons la déforestation et ces feux dramatiques qui sont en train de condamner la forêt amazonienne. Est-ce que pour autant nous en avons tiré les enseignements ? Est-ce que pour autant les consommateurs aujourd'hui font attention à la consommation de viande qui provient justement et qui utilise ces cultures de soja qui détruisent la forêt amazonienne? Les chiffres montrent que non. On a été absolument émus au plus profond de nous-mêmes par ce que nous avons vu en Australie. Nous savons, et les consommateurs savent, comment ils peuvent agir pour justement enrayer ces dramatiques situations, et on ne fait rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer après cette pandémie dramatique? J'ai bien peur qu'on reparte comme en 14, que tout redevienne comme avant.
Justement, que faire pour que ce ne soit pas le cas?
Ben malheureusement, c'est très difficile parce que on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique. À problème mondial, il faut une réponse mondiale. La France ne pourra rien toute seule. C'est vrai qu'il faut un changement radical. Il va falloir ralentir. Il va falloir effectivement mettre un frein à cette mondialisation qui montre ici toutes ses limites, hein, parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est une concurrence effrénée où l'emporte le plus antisocial, le plus anti-environnemental, qui utilise les moyens les moins scrupuleux pour fabriquer moins cher. On voit ici que tout ça peut pas continuer comme ça. On sait aujourd'hui que nous consommons sur la planète en 8 mois ce que la planète met 12 mois à nous offrir. On ne peut pas continuer comme ça, on le sait. Les experts du GIEC nous ont envoyé des rapports qui sont dramatiques, des simulations sur l'avenir qui sont absolument dramatiques. On n'entend pas ces avertissements. Aujourd'hui, est-ce que cette situation dramatique qui touche le monde entier va nous permettre effectivement, le monde, cette petite planète, ce tout petit point bleu dans l'univers, est-ce qu'on va enfin réfléchir et se dire quel monde nous voulons pour dans 30 ans? Ce qu'il faut, c'est avoir une vision. Ce qu'on va faire après cette pandémie, c'est qu'on va sortir une fois de plus une petite boîte à outils pour réparer ici et là des pièces de la voiture. Mais c'est la voiture en entier qu'il faut changer aujourd'hui. Est-ce que donc nous allons pouvoir nous mettre à table, tous les pays du monde, et nous entendre sur une vision? Qu'est-ce que nous voulons que le monde soit dans 30 ans? Parce que cette histoire, nous le savons, des scientifiques nous le disent, elle va recommencer. Ça sera demain un autre virus, comme il y en a eu. Ça sera demain des réfugiés qui, par millions, vont se retrouver à nos frontières. Ça sera demain une catastrophe sociale ou économique qui va faire que le monde va s'arrêter de nouveau. Donc, profitons, et j'espère que nous allons profiter, mais je crains que non, profitons de cette situation pour effectivement remettre en question un certain nombre de choses. Il n'est pas question de revenir à la période de la charrette à cheval. Il faut utiliser le génie humain, l'humain, et cette histoire le montre. Moi, je suis absolument stupéfait et admiratif du monde médical, de ces caissières, de tous ces hommes en France et de par le monde qui font que le monde continue à tourner. Utilisons tout cela à bon escient. J'entendais hier qu'un Américain, je crois, ou un Chinois, peu importe, de 25 ans, avait gagné en une journée plus d'un million de dollars en jouant à la baisse sur les marchés de matières premières. Est-ce qu'on peut encore, aujourd'hui, permettre cela? Ça me semble plus possible. Il faut revoir totalement le système. Et c'est une chance. C'est une chance.
Nicolas Vanier, vous parliez de la pollution en Chine tout à l'heure. La pollution, on s'en doutait, hein, mais après ces 3 semaines de confinement en France, la pollution a baissé et la quantité de gaz carbonique émise est très basse depuis plusieurs semaines. On écoute Sophie Jousselin.
Oui, les images du satellite Sentinelle de l'Agence spatiale européenne parlent d'elles-mêmes. Pris entre le 14 et le 25 mars au-dessus de l'Europe, les clichés montrent une chute significative de la pollution. Presque plus d'industrie ni de trafic, et c'est 30% d'émissions de dioxyde d'azote en moins, ce polluant issu de la combustion des énergies fossiles. Les effets du confinement se font aussi sentir à Paris. Air Paris a présenté il y a quelques jours une carte toute bleue, montrant une amélioration de la qualité de l'air jamais vue en 40 ans d'existence de l'organisme. Mais les résultats auraient pu cependant être meilleurs, avec une météo un peu moins figée, plus venteuse, qui aurait dispersé les particules produites par le chauffage. Parce qu'en quarantaine, on reste chez soi, on monte le chauffage et certains se font même une petite flambée. Mais il n'y a pas que l'air qui s'est amélioré, le bruit aussi a diminué en Île-de-France. Beaucoup moins de voitures, presque plus d'avions, peu de trains. Les niveaux sonores ont baissé jusqu'à 80%. Tout est calme, on entend les oiseaux chanter, mais chaque soir, les capteurs mesurent une légère hausse du niveau sonore vers 20h quand les habitants applaudissent les soignants à leur fenêtre.
Tout a ralenti, juste un niveau sonore un peu plus haut, juste pour une bonne raison, hein, les applaudissements pour les soignants. On peut se dire, Nicolas Vanier, se souhaiter que ce soit vraiment une prise de conscience, finalement, cet événement exceptionnel.
Oui, il faut souhaiter du plus profond, effectivement, de nous-mêmes. Et puis, je pense qu'il faut savoir que nous allons devoir sacrifier un certain nombre de choses, que nous pouvons pas, effectivement, continuer avec ce système de surconsommation effrénée, d'accélération sans fin. Ce temps, nous devons l'utiliser, effectivement, encore une fois, pour réfléchir sur le monde que nous voulons dans 30 ans. Et je pense qu'il faut rappeler aussi, parce que bientôt tout va reprendre, quel pouvoir considérable nous détenons, chacun d'entre nous, en tant que consommateurs, pour pénaliser effectivement ces produits qui viennent parfois de l'autre côté de l'Atlantique pour nous amener des fruits qui ne sont pas de saison, que nous avons ce pouvoir de favoriser les produits de proximité, ceux qui sont peu énergivores, ceux qui respectent l'environnement.
C'est la situation en est la preuve, en tout cas, c'est sûr.
C'est comme ça que chaque personne qui nous écoute, qui sont et on le veuille ou non, aujourd'hui, le consommateur dirige le monde, peut avoir un impact considérable. Je parlais tout à l'heure de la forêt amazonienne, mais on peut parler indéfiniment de tous ces problèmes auxquels on va devoir faire face et qui sont ceux, justement, qui sont pointés du doigt par ces scientifiques qui nous disent, qui nous crient, qui nous alarment en nous disant que nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Merci beaucoup Nicolas Vanier, on peut profiter de ce temps aussi pour se replonger dans vos belles œuvres. Dans un court instant, on ira faire un tour dans la cuisine de Cyril Lignac. Tous les soirs, il invite chez lui plus de 2 millions de téléspectateurs. À l'heure où l'on ne mange plus qu'à la maison, on est preneur de conseils pour rendre ces moments bons et agréables. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, Ophélie Meunier.
Entre-nous avec vous.
Le journal inattendu sur RTL
avec Ophélie Meunier.
Un petit peu d'humour dans ce journal inattendu, ça fait toujours du bien juste avant d'aller dans la cuisine de Cyril Lignac. D'abord, on retrouve Caroline Vigneault qui est avec nous. Vous êtes humoriste et vous étiez sur scène hein, juste avant, comme nous tous, d'être confinés chez vous. Vous étiez sur scène avec votre spectacle Caroline Vigneault, croque la pomme. On écoute tout de suite un extrait.
Et maintenant, nous passons à 1804, l'arrivée du Code civil que l'on doit à Napoléon. Napoléon, ce grand féministe Napoléon, qui va quand même écrire dans le préambule de son code civil cette phrase magnifique. La femme est donnée à l'homme pour lui faire des enfants, elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits appartient au jardinier. Ça picote quand même, hein?
Ça picote quand même. Caroline Vigneault, est-ce que le confinement, ça picote aussi un petit peu pour vous?
Ah oui, ça picote sec même. Surtout que nous, on a un petit peu d'avance, les humoristes, enfin, en tout cas les gens qui jouent dans le spectacle, parce qu'on a été confinés un peu avant vous, sans parler de confinement, tout a été annulé avant. Et donc, ça a été un peu étonnant, enfin, violent, parce que du jour au lendemain, on s'arrête de travailler. Bon, bah, maintenant, on ne peut pas la ramener, parce que c'est pareil pour tout le monde.
Justement, Caroline Vigneault, au moment où, d'abord, alors c'était les rassemblements de plus de 5000 personnes, puis 1000, puis 100. Ah. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, une fois que les théâtres et les salles de spectacle ont été fermées?
Ce qui a été violent, c'est que moi, c'est une semaine avant le Grand Rex, donc c'est 2800 personnes, on était complets, ça fait un an qu'on préparait cette date, il y avait les invités surprises, il y a plein de choses, et une semaine, même 6 jours avant, on a donc arrêté ce que s'est passé en dessous de 1000, et une fois que c'est passé en dessous de 100, pour vous dire, j'étais dans le taxi, j'arrivais Gare de Lyon, je partais pour Saint-Etienne, et dans le taxi, on apprend ça, et on se dit, ah oui, mais est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce que ça va être lundi, puisque c'est arrivé un samedi, donc on me dit, tu pars à Lyon, on verra bien, on essaie de jouer, et au moment où je vais monter dans le train, on apprend que le décret d'application, c'est immédiat et donc je monte pas dans le train et je rentre chez moi. C'est avec tous les affaires, les costumes, tout, voilà, demi-tour.
Bon, alors quand
donc,
même.
On s'est dit combien de temps? La question, c'est ça, c'est combien de temps? Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Et aujourd'hui, on n'a aucune idée parce que même la fin du confinement, on ne la connaît pas. Ils commencent en plus à dire que ça ne va pas être, on imaginait comme beaucoup de gens, quand on nous allait dire ça y est, c'est fini, qu'on allait tous sortir et que ça allait être la libération. Et clairement, on a bien compris que ça allait pas du tout se passer comme ça, qu'ils vont faire ça petit à petit. Donc, même les salles de théâtre, quand est-ce qu'elles vont rouvrir, on n'en a aucune idée.
Alors justement, en attendant, vous vous amusez sur Instagram avec des petites vidéos sur votre situation de vie confinée, de maman confinée, avec deux garçons. C'est plutôt sympa, on écoute.
Bonjour, petite vidéo de mon appartement où je suis en confinement avec mes enfants. Et une petite pensée à tous ceux qui vivent ce moment seul, sans famille, sans conjoint, sans enfant. Je vous envie tellement. Je voudrais moi aussi avoir du temps pour lire. Je voudrais également dormir, voir un tuto pour apprendre à faire du ukulélé. J'aimerais aussi écrire mon spectacle. J'arrive!
Ça va chez vous? C'est calme là?
Là, c'est calme, je les ai attachés pour pouvoir vous parler à la radio. Non, mais c'est marrant parce que quand on voit les différents confinements, chacun vient confinement différent en fonction de sa situation. Il n'y a pas de situation idéale, évidemment. Mais c'est des situations assez cocasses parce que c'est pas comme on me dit comme ça tu vois ce que c'est que la vie des mères au foyer. Je dis parce que les mères au foyer, elles posent leurs enfants de 8h20 jusqu'à 16h30 à l'école.
Ouais.
Alors que on me dit il y a les devoirs. On ne fait pas les devoirs, on fait l'école. Et moi, j'ai un enfant qui est en CP. Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment on explique à un enfant que C plus H ça fait ch et ça fait pas que et que P plus H, H ça fait et pas et ben je sais pas comment faire parce qu'en fait je n'ai pas la formation.
On est quand même plus que jamais reconnaissant envers les enseignants en ce moment.
Mais moi la maîtresse,
c'est une bonne occasion de leur dire.
Quand je vais la revoir, je vais l'embrasser très fort, je vais lui demander pardon pour mes enfants, hein, pour parce qu'en plus, elle en a 30. Non, mais je ne sais pas comment ils font. Moi, je dis à tous les enseignants un respect jusqu'à la fin de ma vie.
Est-ce que depuis le début du confinement, Caroline Vigneault, vous sentez à quel point le public a besoin de rire en ce moment?
Alors, je pense que c'est idéal parce que c'est compliqué. En plus, moi, je fais partie de ces gens qui sont confinés en appartement sans balcon, c'est-à-dire sans extérieur. Donc, on ouvre les fenêtres. Mais bon, il manque quand même cette sensation d'extérieur. Donc, le rire, mais c'est ce que j'ai toujours pensé, le rire fait du bien parce qu'il permet de s'échapper. Parce que quand on se marre pendant quelques minutes, eh ben, on pense pas à la situation dans laquelle on est. Et puis, moi, je me plains pas non plus parce que j'en profite d'être en antenne pour parler quand même d'une situation dramatique. Vous savez que je soutiens beaucoup les violences faites aux femmes. Et là, elles sont en pleine explosion puisque, évidemment, les femmes sont enfermées avec leurs bourreaux et les enfants également dans les appartements. Donc, pensez au 3919 et les voisins, si vous entendez quelque chose, appelez le 3919.
Merci. Voilà. Merci de le rappeler. Le rire aussi, c'est une façon de lutter contre l'isolement. Vous pensez que cette période de confinement va beaucoup inspirer les humoristes pour leur prochain spectacle ?
Écoutez, j'en sais rien, tout le monde me demande ça. Moi, je vous avoue que quand on va sortir, j'ai pas une folle envie de parler du confinement. En tout cas, il faudra peut-être, je pense, une petite période d'incubation pour qu'on ait envie d'en rigoler. Maintenant, il y a des situations, effectivement, qui sont plutôt marrantes, que j'ai vécu moi ou que des amis ont vécu parce que on fait des choses marrantes. On se retrouve le soir sur House Party. Donc, on fait des apéros, des
Zoom,
trucs.
Zoom, House Party, tout ça.
Exactement.
Ouais.
On crée une nouvelle vie sociale et ça fait vraiment du bien de parler avec, surtout pour les gens comme moi qui sont confinés avec des enfants, sans d'autres adultes, ça fait du bien de parler à des gens qui ont plus de 7 ans. Je vous promets. À un moment donné, c'est bien d'avoir une conversation qui parle d'autre chose que de Tchoupi et des ces lapins crétins que je ne peux plus être à pouvoir en peinture.
Et justement, quand vos garçons vous le permettent, est-ce que vous lisez un peu ou écoutez un peu de musique ?
Alors, lire, j'ai essayé. Ça demande beaucoup de force intérieure, faire abstraction du bruit ambiant. C'est compliqué de lire.
On imagine bien comment ça se passe chez vous, quand même, hein, depuis 3 semaines, là.
Ouais, non, c'est compliqué. De lire, quand ils dorment, mais c'est pour ça que je leur expliquais qu'il fallait des horaires. Ouais. Il fallait qu'ils soient au lit à 6h30 le soir.
Ah oui, c'est tôt, quand même.
C'est bon pour la santé. Non, c'est pas vrai.
En
non,
tout cas, vous vouliez partager avec les auditeurs d'RTL un son que vous aimez bien écouter en ce moment. C'est Clara Luciani et Philippe Catherine. Qu'est-ce que t'es beau ?
Je me sens pas beau quand tu marches vers moi.
Qu'est-ce que t'es beau quand tu penses à toi.
Non, je me sens pas beau quand tu sais que je sais pas.
Alors je sais pas, Caroline Vigneault, si vous vous sentez belle en ce moment, mais en tout cas vous continuez à être très très drôle, vos petites vidéos sur Instagram avec ces petits moments compliqués avec les garçons, ça vous fait du bien aussi à vous?
Oui, et puis même avec eux,
ça vous libère.
Donc ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Ah oui. Et puis qu'est-ce que t'es beau, je trouve qu'elle est belle cette chanson, puis surtout je crois qu'on se sent tous plus ou moins... franchement, on doit faire un effort, on va se dire la vérité, pour prendre une douche, pour s'habiller, puisqu'on sait que de toute façon on ne sort pas, on ne croise personne. Et que donc il y a une espèce d'effort et maintenant je m'habille en propre, vous voyez, cette sensation de je ne sais pas si ça va ensemble, mais en tout cas c'est propre.
À travers nos oreilles que vous prenez soin de vous, que vous continuez. En tout cas, Caroline Vigneault, votre spectacle Caroline croque la pomme, normalement c'est le 9 juin en fonction de l'évolution de la situation au Grand Rex du 21 au 24 avril 2021. À l'Olympia. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire bon courage. Prenez soin de vous et de nous. Hein, toujours continuer à prendre soin de nous par le rire. Ça nous fait du bien. Dans un instant, on retrouve Cyril Lignac qui nous emmène dans sa cuisine et qui va nous dire comment faire en sorte que nos repas matin, midi et soir en famille soient les meilleurs possibles. À tout de suite.
Ophélie Meunier,
le journal inattendu sur RTL.
Ophélie Meunier,
le journal inattendu sur RTL.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur RTL, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de nettoyer ma cuisine. Et bon, je suis prêt. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque soir. Ne vous inquiétez pas, je bouge pas, je suis là avec vous et je vous accompagne pour qu'on prépare ensemble notre dîner parce que je mange la même chose que vous.
C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai, Cyril Lignac, que vous mangez tous les soirs ce que vous cuisinez avec les téléspectateurs ?
Bonjour Ophélie, ben oui, je cuisine et je mange, bien sûr, je mange ce que l'on a cuisiné. Ouais.
Parce que c'est, alors j'ai regardé, hein, c'est macaroni, c'est costaud quand même.
Hier soir, c'était du poisson.
Oui, c'était du poisson hier soir, c'est vrai.
Donc du coup, j'ai mangé deux morceaux de poisson, huile d'olive, et bon, j'ai pas mangé le pain perdu, je l'ai mangé ce matin. Mais sinon, oui, je mange exactement les mêmes choses. Alors, après, c'est la quantité qui compte, c'est toujours le même sujet.
Oui, ça, c'est ce qu'on dit toujours.
C'est ça.
Quand même. Macaroni, pain perdu et beaucoup d'huile d'olive, à un moment, bon, surtout en période de confinement, il faut faire un petit peu attention. Vous présentez une émission, donc, Cyril, sur M6 qui cartonne, ça s'appelle Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac. J'en profite d'ailleurs pour dire tout de suite que vous êtes à l'antenne au moins jusqu'au 17 avril. Comment ça s'est passé ? D'où est venue l'idée de l'émission dans cette situation complètement particulière et exceptionnelle de confinement ?
Mais en fait, quand on a annoncé le confinement, déjà, ça a été brutal pour moi parce qu'on a fermé les restaurants Illico Presto le samedi. Donc, du coup, ça a été quand même un grand choc et une vraie prise de conscience de ce qui nous attendait. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, mais attends qu'à être confiné, je vais rester chez moi. J'ai une belle cuisine. C'est le moment de me remettre en cuisine à la maison parce que j'avoue que déjà, je suis au restaurant tous les jours, donc je ne cuisine pas beaucoup à la maison. Et puis je me suis dit, c'est une manière, comme une parenthèse enchantée, de me dire, je vais reprendre les classiques et faire la cuisine du quotidien avec des produits.
Ça nous semble un peu bizarre, ça, de vous entendre dire, je cuisine pas beaucoup chez moi. Pour un chef, c'est vrai qu'on on vous imagine tout le temps dans votre cuisine chez vous, évidemment,
ouais,
à faire au moins des bonnes choses pour vous, quoi.
Mais disons que quand on est cuisinier, on travaille le midi et le soir. Donc du coup, moi j'ai cette facilité de dîner ou de déjeuner dans mon restaurant. Et donc, pas forcément à la maison, à part le week-end où, bien entendu, je fais un petit peu à manger.
Est-ce que vous laissez les autres vous faire à manger, Cyril ?
Oui, j'adore ça. Vous savez, quand je mets les pieds sous la table, moi, ça va. Hein.
Ouais, c'est sympa aussi, ça vous arrive pas. Ça fait du bien de se poser un petit peu. Bon, alors là, c'est pas du tout l'actualité du moment, hein, puisque tous les soirs, vous êtes la main à la pâte. Qui a été bon élève ? Parce que vous avez des personnalités qui vous rejoignent tous les soirs en direct dans votre cuisine. Qui vous a agréablement surpris en cuisine ?
Alors, je pense que, culinairement parlant, je vais dire Anne-Marie Vin, parce que très bonne cuisinière, la cuisine bien rangée, très méticuleuse. Donc, c'est vrai que c'était cool de faire le dîner avec elle. Après, Harry habitant dans une toute autre partition et rigolade. Donc, voilà, non, ça dépend de l'invité, en fait, du soir. Parfois, on rigole beaucoup. Parfois, on est un peu plus concentré. Parfois, on est agité, mais c'est finalement la joie du direct.
Certains vous ont donné du fil à retordre. Je pense à Jarry cette semaine. Ah oui. Ça a été quand même très très compliqué. On écoute.
Allez, Jarry, est-ce que t'as fait avec du papier film ?
Alors écoute, regarde l'état de ma cuisine. C'est Beyrouth et je n'ai pas de four à micro-ondes. Voilà, c'est très très con. J'ai une cheminée, mais je n'ai pas de four à micro-ondes. Voilà, on m'a dit qu'il ne faut pas de four à micro-ondes.
Alors, écoute, Jarry, tu les prends comme ça et tu vas les mettre dans la cheminée. Jarry, il ne faut jamais faire ça. Ne faites pas comme Jarry à la maison, il ne faut pas mettre du papier film sur le visage. C'est juste une blague.
Non, mais attendez, Cyril Lignac, personne n'avait dit à Jarry qu'au minimum, il fallait un micro-ondes pour pouvoir participer à votre émission.
Mais je ne sais pas, ça me semble tellement... Je peux comprendre que, fut un temps, le micro-ondes s'était rapporté au plat tout préparé, cuisiné, réchauffé. Mais au bout d'un moment, à la maison, moi j'ai un micro-ondes, je m'en sers pour faire fondre du beurre, pour faire réchauffer des plats. Bon, on a tous, je pensais, un micro-ondes, mais visiblement, pas Jarry.
On peut parler aussi de votre commis, Jérôme Anthony. Alors c'est quand même le plus mauvais commis que vous aurez jamais de toute votre carrière.
Disons qu'il est débutant. je me suis dit que pendant ce confinement, j'allais le former pour que, à la sortie, il puisse venir travailler avec moi. Non, mais Jérôme, c'est vrai que bon, il met l'ambiance, c'est super, il est candide et donc à la fois il apprend. Mais ce qui fonctionne très bien dans cette émission, c'est le principe de faire de la cuisine simple. Et détrompez-vous, il y a plein de personnes qui n'ont jamais fait un gratin dauphinois, qui n'ont jamais fait cuire une viande, un poisson, et qui ne savent pas faire. Et du coup, je trouve que hors antenne, à chaque fois, on s'appelle après l'émission, et il me dit, mais tu sais comment je suis content, je mange, c'est top le gratin. Et il y a plein de Français qui ne cuisinent pas, qui ne cuisinent plus, ou surtout, qui n'ont jamais appris. Donc à travers ce programme, on fait la cuisine en direct, avec de l'amusement, et à la fois, on apprend à se nourrir, à s'alimenter, quoi.
Ça, c'est plutôt une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, hein, ça, Cyril Lignac, parce que là, plus que jamais, on va apprendre à faire de bonnes choses chez soi, on va un petit peu déserter vos restaurants, c'est pas top.
Alors, quand vous en aurez marre de cuisiner, vous reviendrez au restaurant.
Vous n'êtes pas inquiet, visiblement. On va vite revenir. On écoute votre univers musical pendant que vous cuisinez confiné. Alors, ça va des Rolling Stones à M. Ça donne envie de se mettre en cuisine, en tout cas, tout ça. Merci beaucoup, Cyril Lignac. On vous retrouve donc dès lundi, 18h45, en direct de votre cuisine. C'est quand même super sympa hein, d'inviter tout ce monde chez vous toute la semaine. Donc, c'est en direct sur M6. Et je rappelle que l'émission est prolongée jusqu'au 17 avril. Et tous les ingrédients de vos recettes sont donc à retrouver sur votre compte Instagram et aussi sur le site de Cuisine AZ. Merci beaucoup, Cyril Lignac.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai été vraiment ravie de passer cette heure en votre compagnie. Dans un très court instant, c'est Confidentiel consacré à Yoko Ono et présenté par Jean-Alphonse Richard. Je vous souhaite un très bon samedi, une bonne après-midi. À très bientôt.
RTL, le journal inattendu.